Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Pierre Manin, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez été l'assistant au Collège de France pendant presque 20 ans de Raymond Aron. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Et puis, donc vous faites paraître, après 30 ans de vie intellectuelle, vous faites paraître deux livres en même temps. Le premier, donc, Le regard politique, qui sont un peu des entretiens, et surtout des entretiens biographiques. C'est la première fois que vous parlez de vous et de votre parcours. Et le deuxième, donc, Les métamorphoses de la cité, livre plus gros, plus universitaire, plus théorique, et les deux donc chez Flammarion. Vous êtes donc philosophe, soucieux, dites-vous au début de votre livre, de comprendre la chose humaine, et vous considérez que l'ordre politique est ce qui forme, d'une certaine façon, la vie humaine. Et vous êtes connu pour être un spécialiste du libéralisme, pour considérer qu'il y a deux sciences politiques authentiques, les Grecs et puis les libéraux. Alors, première question, on a l'impression que vous êtes à un moment, comme on dit, de votre œuvre. Vous publiez donc ce regard, ces entretiens sur votre vie et sur votre œuvre. Est-ce qu'on peut considérer que votre œuvre est d'une certaine façon stabilisée et que donc vous ressentez le besoin de faire un peu un point sur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Ou est-ce que ce travail, donc le regard politique, n'est qu'un moment encore d'une pensée qui se cherche toujours?
J'espère qu'elle se cherche toujours et qu'elle se trouve parfois. Non, c'est, comment dire, il y a un moment, en somme, où on a le sentiment de pouvoir retracer son itinéraire de manière un petit peu significative. Voilà, il m'a semblé que, dans les dernières années, j'étais parvenu à une vue plus claire de ce que, au fond, j'essayais de faire depuis 30 ans. Et donc, il ne s'agit pas de dire « voilà ce que j'ai découvert », il s'agit plutôt de dire, voilà, il me semble que ce parcours est significatif, que j'ai obtenu, je crois, certains résultats et que peut-être le lecteur peut tirer quelques bénéfices de ce retour sur soi. Parce qu'en effet, il y a des scansions dans la vie intellectuelle comme dans la vie personnelle. On travaille continuellement, mais en quelque sorte, certaines années comptent double et certains moments sont des moments d'inflexion. Voilà. Et donc, dans ces entretiens avec Bénédicte Delorme-Montigny, j'ai essayé de faire un premier bilan et d'esquisser quelques perspectives pour l'avenir.
Je vous dis ça parce qu'effectivement, on a le sentiment, en lisant votre livre, qu'il y a en vous une inquiétude philosophique et de pensée qui est très forte, avec une double difficulté. La première, c'est ce que vous dites donc dans ce livre, page 83, que vous êtes toujours écartelé d'une certaine façon entre trois pôles, la politique, la philosophie et la religion, d'une part, et que deuxièmement, vous, je vous cite, page 89, « En règle générale, je n'ai jamais été préoccupé de rejoindre aucun milieu. » Donc il semble que vous êtes à la fois écartelé entre ces trois pôles, d'une part, et que deuxièmement, vous n'êtes pas, vous ne voulez pas être catalogué comme étant aronien, comme étant libéral, comme étant, vous voyez ?
C'est deux choses, si vous voulez. Enfin, c'est catalogué, bon, nécessairement on l'est, je veux dire, ça, c'est pas... Vous faites un livre sur le libéralisme, vous êtes libéral, et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la première partie de votre propos, c'est-à-dire les trois grands domaines de la vie humaine. Alors, tout le monde rencontre plus ou moins ce triangle. Parce que tout le monde est citoyen, ou du moins veut l'être, ou espère l'être, ou voudrait l'être. Tout le monde rencontre, d'une façon ou d'une autre, la question religieuse, même si elle n'occupe pas toujours une place très, très consciente. Et tout le monde rencontre aussi, en un certain sens, la question philosophique, dans la mesure où chacun a quelque ambition de conduire sa vie de manière raisonnable. Bon, alors évidemment, tout dépend du degré, de l'ampleur, de l'effort que l'on donne à chacun de ces domaines. Et si vous voulez, en effet, il m'a semblé que dans mon expérience propre, je me suis intéressé passionnément à chacun de ces trois domaines et d'une certaine façon, à la différence d'autres, d'autres auteurs ou de contemporains ou proches, je n'ai pas en quelque sorte fait un choix dans lequel je me serais reconnu définitivement. C'est-à-dire, comme je le dis, Aron manifestement, sans beaucoup d'inquiétude religieuse d'un côté et sans poursuivre, disons, ses premiers travaux philosophiques, c'est vraiment consacré à la compréhension de la chose politique. Un auteur comme Strauss était à la recherche de la philosophie dans son sens originel, et un auteur comme Maritain, lui, comment dire, a consacré sa vie à l'explicitation de sa foi, en quelque sorte. Voilà. Et moi, si j'ose dire, je n'ai réussi aucune des... Je n'ai fait aucun de ces trois choix, je ne me suis donné entièrement à aucune de ces trois possibilités. Et alors j'ai bricolé entre les trois, non sans profit, je crois, malgré tout. Non sans profit, pour précisément essayer de cerner la manière dont ces trois grandes choses se rejoignent, se séparent, s'articulent, se désarticulent. Voilà. Je tourne toujours autour de ces questions-là.
Tout en considérant sans doute que ces trois pôles-là sont pour partie incompatibles les uns avec les autres. C'est du moins ce que pensait Raymond Aron, qui n'était pas effectivement un homme préoccupé de religion, et c'est ce que vous dites. C'est ce que pensait aussi Léo Strauss, un autre de vos maîtres, qui voyait effectivement cette incompatibilité des deux. Enfin, voilà. Donc ces trois pôles-là que vous bricolez avec eux, vous cherchez à les concilier, peut-on dire ça comme ça, voilà. Alors même que vos maîtres, eux, et je ne sais pas si on peut dire ça comme ça aussi, pensaient que ces trois pôles-là étaient incompatibles les uns avec les autres.
Enfin, Strauss, par exemple, pensait en effet que philosophie et religion sont incompatibles. Mais pour le dire, Maritain, au contraire, pensait qu'il y avait une philosophie thomiste. Bon, mais pour le dire de la manière la plus simple et en même temps la plus décisive, c'est que, comment dire, on ne peut pas donner son âme tout en... Je veux dire, s'il en a donné son âme à la philosophie, ou donné son âme à la politique, ou donné son âme à la foi, on ne peut pas faire autre chose en même temps, si vous voulez. Bon, si la philosophie, si la quête philosophique ne se suffit pas à elle-même, alors on n'est pas philosophe, on est autre chose. On est un penseur religieux, mais on n'est pas philosophe. Si la vie de foi ne se suffit pas à elle-même, on n'est pas un croyant. On est quelqu'un intéressé peut-être par la foi. Et l'homme politique, il n'est pas un homme politique... tant soit peu sérieux s'il ne consacre pas sa vie à la vie politique. Churchill, De Gaulle, ils peuvent penser, croire ce qu'ils croient ou pensent, leur vie est tout entière dans la politique. Donc voilà, c'est, si vous voulez, c'est une question de direction de l'âme et des énergies de l'âme, on ne peut pas les diviser d'une certaine façon. Ou bien alors, on peut être un homme cultivé qui se promène entre les disciplines, mais on n'est pas véritablement ni un philosophe, ni un homme de foi, ni un homme politique. Donc voilà. Alors, moi, je ne suis pas un homme politique. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas très désireux d'avoir le label de philosophe. Et quant à ma religion, en effet, je partage une foi, mais je suis sans cesse, en quelque sorte, à l'écoute des objections que et la politique et la philosophie adressent à la foi que je partage.
Mais ça veut dire que, pour en terminer avec ce sujet-là, mais ça veut dire que vous cherchez l'intersection de ces trois pôles, ou la compatibilité de ces trois pôles, ou il y a un effet d'incompatibilité et d'écartèlement entre ces trois pôles.
Comment dire ? Je dirais que dire qu'ils sont... Je ne cherche ni la compatibilité, comme le cherchait Maritain, ni je n'accentue l'incompatibilité, comme le fait Strauss. Au fond, je ne sais pas ce qui va sortir de tout cela. Comment dire ? Si vous voulez, c'est un peu comme l'histoire de l'Occident. C'est quoi ? C'est la recherche de la vie civique ? C'est la recherche de la vérité philosophique et c'est l'espérance d'une communion religieuse. Et ces trois grandes forces de la vie occidentale, au fond, n'ont cessé de se croiser, de se heurter, de se confondre parfois. Et d'une certaine façon, il me semble, je ne sais pas si vous y verriez une excessive ambition ou au contraire une excessive modestie, mais il me semble que dans mon travail intellectuel, je fais écho d'une certaine façon, je partage la perplexité occidentale. Vous savez la formule de saint Augustin à propos des deux cités, la cité de Dieu et la cité des hommes. Ces deux cités, perplexae sunt, qui huit atest. Ces deux cités sont perplexae, c'est-à-dire mêlées l'une à l'autre. Mais évidemment, nous, nous entendons aussi dans cette perplexae notre perplexité. Eh bien voilà. Donc j'essaie de donner voix, si j'ose dire expression, de la manière la plus juste possible à chacun des grands engagements de l'âme, n'est-ce pas, l'engagement civique, l'engagement philosophique, l'engagement religieux, d'en retracer les perplexités au cours de l'histoire occidentale depuis la cité grecque. Et quant à l'issue, aussi bien, si j'ose dire, l'issue personnelle que l'issue collective, je l'ignore.
Alors, je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu sur, effectivement, Raymond Aron. Donc, Raymond Aron, vous avez été son assistant, on peut dire son disciple, pendant très longtemps. On a l'impression qu'il vous a appris le sérieux de la politique, que la politique, c'est sérieux, que ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère. Et donc, je rajoute que vous êtes un des fondateurs donc, de la revue Commentaire. donc revue qui s'inscrit dans la tradition de Raymond Aron. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore, si on peut dire ça comme ça, en quoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore disciple de Raymond Aron? Et qu'est-ce que Raymond Aron vous a apporté? Parce que dans le livre, vous insistez beaucoup sur presque l'admiration personnelle que vous aviez à l'égard de Raymond Aron, de son talent d'orateur, etc. Donc en quoi est-ce que sa pensée, aujourd'hui, est encore pour partie la vôtre?
Vous l'avez dit tout de suite, prendre au sérieux la chose politique. Quand je suis dans le métro, je vois souvent des gens qui lisent Le Canard enchaîné. Eh bien, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais ça, à chaque fois, ça me fait mal. Et ça fait mal aux citoyens. Bon, Le Canard enchaîné, c'est très bien, c'est très utile, ça dénonce des tas de choses qui méritent d'être dénoncées, je n'ai rien contre. Hein. En même temps, cette façon de regarder la chose politique par le ricanement, ou à travers le ricanement, ou à travers la supériorité du ricanement, ça me fait mal. Parce que c'est la mauvaise approche, si j'ose dire. La chose politique, il y a bien des choses ridicules, il y a bien des choses qui méritent l'indignation, comme on dit aujourd'hui, mais il y a d'abord des grands enjeux, et des grands enjeux à la fois collectifs et individuels, puisque chacun est parti d'une cité. Et donc, Aron, si vous voulez, pour moi, ça a été c'est le contraire du canard enchaîné. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais senti supérieur aux hommes politiques parce qu'il avait lu beaucoup de livres et parce qu'il avait fait de l'agrégation de philosophie. Il a toujours pris au sérieux les enjeux politiques, il a toujours pris au sérieux la vie civique, et il a toujours considéré que, au fond, comme je le dis ici, sous une forme ou sous une autre, enfin dans le livre dont vous parlez, les enjeux de la vie humaine se jouent dans la vie du citoyen et la vie de l'homme d'État. Donc, ça veut dire que si on s'intéresse à la politique, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire à ses moments perdus. C'est l'objet d'un travail d'information continu, régulier, et c'est l'objet d'un travail d'éducation ou de formation. Parce que on ne naît pas citoyen, on le devient. On le devient en s'informant et en produisant en soi, en élaborant en soi, les vertus de citoyen. Vous savez, c'est un terme que l'on n'aime pas beaucoup. C'est un terme d'ailleurs qu'Aron n'employait pas du tout, même s'il montrait ses vertus de citoyen. Bien, une vertu de citoyen précisément. Alors, il y a deux vertus, n'est-ce pas? Je crois. Il y a le courage civique, qui est beaucoup plus rare qu'on ne pense. Il y a le courage civique, la capacité de dire dans l'espace public ce que l'on pense de la chose publique, même quand cela n'est pas populaire. Et Aron l'a fait, au fond, pendant 30 ans. Il est devenu populaire à l'extrême fin de sa vie, ou pendant 40 ans. Donc, le courage civique. Et puis d'autre part, quelque chose alors qui est encore plus rare, parce qu'au fond, des gens courageux, il y en a plus qu'on ne dit, et qui est quelque chose que j'appelle l'impartialité. Alors l'impartialité, c'est très difficile parce que ce n'est pas l'indifférence politique, quelqu'un qui dit spontanément « bon, chacun a sa part de vérité ». Non, bien sûr, chacun a sa part de vérité si on veut, mais dans chaque situation politique, on est obligé de choisir, et en même temps de faire droit à la vérité de chaque position, ce qu'il y a de vrai dans chaque position. Et mêler à la fois la capacité du choix raisonné et l'approche impartiale du problème, des différentes prises de position sur le problème, c'est une vertu à la fois morale et intellectuelle qui est rare. Donc voilà, Aron a intitulé ses mémoires 50 ans d'éducation politique. Je trouve que c'est un très très bon sous-titre, parce que cela voulait dire que la vie d'Aron, ça a été un travail continuel d'éducation politique, d'éducation civique, parce que l'histoire politique ne s'arrête pas, la vie civique ne s'arrête pas, et on n'arrête pas, en quelque sorte, de devenir, dans le meilleur des cas, à moins qu'on se calcifie, en quelque sorte, dans des positions, ce qui est évidemment une tendance naturelle, on ne cesse pas d'avoir à faire preuve de courage et d'avoir à parvenir à une impartialité toujours plus grande. Et voyez, pour l'impartialité, Aron, dans ses mémoires, sans cesse revient sur ses jugements. Par exemple, sur De Gaulle, il revient encore tant d'années après sur un article qu'il avait écrit en 1943, L'ombre des Bonaparte, où au fond, il était à Londres, il était avec la France libre, mais en même temps assez réticent à l'égard de l'entreprise gaullienne. Et dans cet article, au fond, il redoute que le général De Gaulle ne soit engagé dans une entreprise ennemie des libertés et de la République. Et il revient sur cet article et il en avoue en quelque sorte les limites, et il admet que son évaluation de De Gaulle là, avait été injuste et partiale. Donc voilà, c'est ça pour moi qu'Aron a représenté, les vertus du citoyen infatigable. Encore une fois, vertu morale et vertu intellectuelle.
Oui, sauf que contrairement à lui, vous intervenez peu dans l'analyse de la situation politique.
Oui.
Donc Raymond Aron avait l'avantage d'avoir à la fois une culture, comme on dit, de philosophie politique, et très tôt, il est intervenu très régulièrement, dans le Figaro en particulier, dans l'analyse de la situation politique du moment.
Ça, c'est propre.
Ce n'est pas votre cas.
Non, vous avez raison. Mais c'est vraiment très propre à Aron. Il a fait pendant toute sa vie, pratiquement, 2 articles par semaine et quelques autres, plus ses livres, plus ses cours. Donc là, il avait, si vous voulez, une versatilité au sens anglais du terme, n'est-ce pas ? Une capacité de faire des choses différentes que je n'ai tout simplement pas. Et en effet, même si je suis avec beaucoup d'attention la vie politique, nationale et internationale, en effet, je ne suis pas capable et je n'ai pas le désir d'intervenir régulièrement dans le commentaire politique. Parce que je suis engagé dans l'exploration de problèmes qui, si j'ose dire, me font parcourir l'ensemble de notre histoire politique depuis la cité grecque. Et donc, quel que soit mon intérêt extrêmement vif pour le présent politique, j'ai besoin, en quelque sorte, de rester à distance.
Alors, je voudrais en venir à un auteur qui a eu beaucoup d'importance pour vous. Je parle de Tocqueville, et vous semblez, dans ces derniers livres, mettre un tout petit peu de bémol à l'importance de Tocqueville. Donc, Tocqueville est un auteur qui n'était pas sérieux, jusqu'au moment où, effectivement, Raymond Aron et d'autres, et vous, donc, qui avez écrit en 1982, si je ne m'abuse, donc Tocqueville et la nature de la démocratie, on peut dire que nous sommes aujourd'hui dans un moment tocquevillien, où l'idée de l'égalité, telle que développée en particulier par Marcel Gauchet, semble prendre toute la place. Voilà. Et vous, qui êtes un pionnier, disons, de cette analyse tocquevillienne, dans ce livre, vous revenez un tout petit peu, on a l'impression qu'il y a une forme d'amour déçu, enfin, de Tocqueville. Sur le point suivant, vous semblez indiquer que la coupure que lui instaure entre l'inédit de la démocratie et tout ce qui vient avant ne vous semble pas aujourd'hui être pertinent, et que cet accord sur la différence de nature entre la démocratie moderne, voilà, et puis ce qu'il y a avant, contente tout le monde, c'est-à-dire à la fois les réactionnaires et à la fois ceux qui sont démocrates et progressistes, et qui, voilà. Mais vous, vous semblez qui n'êtes ni l'un, enfin qui n'êtes pas réactionnaire, qui êtes plutôt dans la modernité, vous vous dites non, finalement, il y a quelque chose d'autre, il y a une autre question antérieure à celle-là, qui est peut-être plus importante que ce que Tocqueville nous a dit.
Oui, vous avez raison. Pour revenir au tout début de notre conversation, l'une des raisons pour lesquelles j'avais le sentiment qu'il était peut-être, c'était peut-être le moment de faire le point, c'est qu'en effet, je suis parvenu à une certaine clarté sur ma position par rapport à Tocqueville et sur cette insatisfaction que j'ai éprouvée de plus en plus. Ce qui m'a d'abord fasciné chez Tocqueville, et qui, je crois, a fasciné une bonne partie de ma génération, je le rappelle, c'est l'acuité de sa description de la vie démocratique, de sa description de l'homme démocratique. Avec, pour ajouter à notre fascination, le sentiment tocquevillien d'une, comment dire, que l'humanité avait passé, en quelque sorte, une étape décisive de son histoire, était en train d'être engagée dans une transformation radical qui rapetissait en quelque sorte tout ce qui s'était passé avant. Et au fond, je partageais, si vous voulez, j'ai longtemps partagé cette, avant d'être une analyse, c'est un sentiment, une perception tocquevillienne. Que d'ailleurs Aron ne partageait pas, parenthèse, ce sentiment de l'extraordinaire nouveauté de la démocratie moderne. Donc j'ai longtemps partagé ce sentiment, ce qui fait qu'au fond, l'enjeu, tout tournait autour de la question. La modernité démocratique et ce qui l'a précédé, et le rapport entre la modernité démocratique et ce qui l'a précédé, la révolte de la modernité démocratique contre ce qui l'a précédé. Et c'est au fond, en élargissant le champ, que progressivement, si vous voulez, je me suis rendu compte que cette révolution démocratique moderne, certes fort importante, n'était qu'une révolution dans une histoire plus longue qui avait connu d'autres révolutions et peut-être des révolutions plus décisives. Une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'était que, là c'est le prof de philo qui parle, le lecteur des philosophes qui parle, Tocqueville parle des philosophes grecs, de Platon, de toutes ces choses-là, comme, bon c'est bien intéressant, mais enfin tout ça ne concerne pas la démocratie moderne. Et si vous lisez ce que Platon dit dans La République de la démocratie ancienne, sa description ressemble énormément à celle de Tocqueville. Donc vous vous dites immédiatement, alors cette démocratie moderne n'est pas ce phénomène si extraordinaire que décrit Tocqueville, au fond. Je lis Platon et l'évocation qu'il fait de la démocratie athénienne ressemble énormément à... la cité grecque est peut-être alors une transformation politique, représente la cité grecque, la fondation de la cité grecque et sa démocratisation représente peut-être une transformation politique qui mérite d'être interrogée. Et peut-être la fondation civique est-elle cette transformation politique et anthropologique fondatrice qui enclenche finalement toute cette histoire occidentale que Tocqueville voit en quelque sorte s'achever et culminer dans la démocratie moderne. Donc, pour résumer une longue interrogation, une longue perplexité, j'ai eu le sentiment progressivement en effet de m'éloigner de Tocqueville, de m'éloigner de quelque chose comme une fascination pour la démocratie moderne, pour l'égalité moderne, d'une fascination pour cette histoire qui, comme je le dis quelque part, court vers nous, à nous pour finalité. Je me suis éloigné de cette perspective pour en quelque sorte me décentrer et nous décentrer et nous replacer dans ce qu'on appelle conventionnellement une histoire longue. Et une histoire longue que je fais commencer à la cité grecque, alors nous en reparlerons peut-être, mais juste un mot, c'est à la fois d'une parfaite banalité dans le miracle grec. Je parais revenir, si j'ose dire, à des platitudes de l'éducation classique, mais je crois que non, il y avait quelque chose de fondé dans l'éducation classique, c'est... Il y a dans la cité grecque quelque chose qui est une invention, une production vraiment propre à l'Occident et qui est ce que j'appelle, mais c'est le terme même qu'emploient les anciens, la fabrication du commun ou de la chose commune. Mmh. Et au fond, toutes les grandes scansions de l'histoire occidentale me sont apparues alors comme c'est le titre du gros bouquin que vous avez mentionné, toutes ces grandes scansions de l'histoire occidentale me sont apparues comme des métamorphoses de la chose commune, c'est-à-dire de cette première cité produite d'abord en Grèce.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que vous partagez aujourd'hui l'analyse de Tocqueville, mais que vous ne partagez pas sa philosophie ?
Oui, effectivement, en effet. Je suis très intéressé, très admiratif, disons, par sa phénoménologie, enfin, par sa description de la vie démocratique, mais je prendrai quelques distances par rapport, je dirais, à son pathos, le pathos de la révolution inouïe qui nous emporte, n'est-ce pas ? Et donc, par sa manière de mettre les accents dans l'histoire européenne et occidentale. Vous aviez raison, c'est un point qui m'a beaucoup frappé que vous mentionniez. Au fond, tout le monde est d'accord sur cette thèse que j'essaie précisément de mettre en cause. C'est-à-dire, réactionnaires, progressistes, et ceux qui ne sont ni réactionnaires ni progressistes, mais qui entendent être des anthropologues de l'histoire occidentale sont d'accord sur ce fait. Il y a une grande polarité entre la modernité démocratique et tout ce qui l'a précédé. Alors les réactionnaires pleurent, les progressistes applaudissent et les théoriciens de l'anthropologie politique nous expliquent comment l'on est passé du holisme à l'individualisme. Eh bien, si j'ose dire, à mon avis, ce qu'ils ont en commun est inexact. C'est une partie de notre histoire, mais... C'est dans une histoire plus longue et où les accents sont différemment disposés que l'on peut mieux se comprendre.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, c'est le petit reproche que je me permettrais de vous formuler par rapport à ce livre, donc Le regard politique, est-ce que vous n'êtes pas plus tocquevillien que vous ne le dites ? C'est-à-dire que quand vous parlez de la fragmentation sociale, du repli sur l'individu, de la disparition de la forme politique, on est dans Tocqueville.
Oui, voilà. Alors tout le monde est d'accord. Tout le monde est tocquevillien de ce point de vue-là.
Voilà, donc d'une part, et que deuxièmement, vous cherchez, par souci d'honnêteté qui vous caractérise, à mettre en évidence ce pourquoi vous n'êtes plus autant tocquevillien que vous l'étiez. Et ça donne le sentiment...
Donc j'estompe évidemment ce que je partage toujours avec Tocqueville.
Voilà, exactement. Et alors le sentiment qu'on a par rapport à ce livre-là, c'est que sans doute, vous avez pris vos distances, peut-être plus à la marge que sur l'analyse elle-même. Et alors qu'effectivement, pour le dire comme ça, mais la dissolution de la forme politique, et on verra ça dans la deuxième partie, mais la dissolution de la forme politique que vous analysez, la disparition de l'État-nation, etc., est-ce qu'on n'est pas là dans une analyse tocquevillienne ?
Oui, on peut bien sûr dire, vous avez raison, que nous assistons au triomphe, que ce que Tocqueville a décrit est aujourd'hui déchaîné d'une certaine façon. La démocratie, telle qu'il l'entend, c'est-à-dire le sentiment du semblable, conduisant à ce que j'appelle la religion de l'humanité, a progressivement érodé toutes les articulations de la vie collective, politique, religieuse, tout ce qui portait l'individu, l'être humain au-delà de lui-même, tout ce qu'il faisait participer à quelque chose de plus grand que lui-même, a été progressivement délégitimé. Et en effet, en ce sens, nous assistons au triomphe de la démocratie tocquevillienne. Maintenant, cela étant admis, comment regarde-t-on cette situation ? Parce qu'on peut la regarder, comme le font certains, dans le registre, je dirais, de la satisfaction devant l'histoire parvenue à sa fin. L'homme européen aujourd'hui, c'est l'homme accompli qui a laissé derrière lui la guerre et la transcendance, toutes ces choses qui se retournent contre l'homme. Bon, on peut le regarder en pleurant et en vitupérant et par le sarcasme, en contemplant ce que Nietzsche appelait le dernier homme, n'est-ce pas, qui tourne sur lui-même en disant « nous avons inventé le bonheur ». Je ne suis ni dans l'admiration, ni dans la vitupération et le sarcasme. Je me demande, si j'ose dire, comment, dans cette situation si bien décrite par Tocqueville, ou à partir de cette situation si bien décrite par Tocqueville, l'histoire occidentale peut continuer ou va continuer. Et pour, si vous voulez, donner sens à notre situation, on ne peut pas rester à l'intérieur de la description tocquevillienne et à l'intérieur de la, je dirais, soit de la déploration, soit de la satisfaction. Qu'est-ce que cela signifie dans l'histoire de l'Occident par rapport à notre histoire théologico-politique, par rapport à l'histoire du christianisme, par rapport à l'histoire des nations ? Je ne crois tout simplement pas que notre démocratie tocquevillienne ou notre démocratie qui accomplit les pressentiments de Tocqueville tout simplement puisse durer encore longtemps telle qu'elle. Les enjeux qui la dépassent pèsent sur elle de façon de plus en plus visible. Et si l'on veut avoir quelque chance de s'orienter d'une façon un petit peu judicieuse dans les années qui viennent et déjà dans le présent, il faut sortir en quelque sorte de cette obsession démocratique, si j'ose dire. Que ce soit une obsession de faveur ou une obsession de critique, les enjeux sont aujourd'hui les enjeux métadémocratiques, l'enjeu du corps politique, l'enjeu de la nation, l'enjeu religieux. Et c'est par rapport à ces questions que, je crois, nous pouvons nous orienter.
Donc on peut dire, et on terminera une première partie là-dessus, on peut dire que vous étiez tocquevillien quand l'ensemble de l'intelligentsia était plutôt, disons, marxiste, et que maintenant que, disons, les penseurs dominants sont plutôt tocquevilliens, vous êtes plutôt post-tocquevillien, donc en train de chercher ce qui pourrait advenir après l'impasse de la démocratie actuelle.
Vous suggérez que je prends toujours le contre-pied de l'opinion dominante. Non, ce n'est pas mon propos. Bon, d'abord, ma génération, comme je disais, était quand même assez tocquevillienne. Je veux dire, je n'étais pas singulier dans cette affaire. Mais oui, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, en quelque sorte, les enjeux sont les enjeux extérieurs à la démocratie, d'une certaine façon. Voilà.
Nous arrêtons là donc notre entretien avec Pierre Manant. Pierre Manant, merci. Et donc, nous aurons l'occasion, dans une autre émission, d'aborder deux éléments. Le premier, le regard que vous portez sur l'Europe et les impasses actuelles de l'Europe. Et deuxièmement, ce que vous dites de l'apport du christianisme à la modernité, en particulier la question de l'égalité. Donc je renvoie nos auditeurs à vos deux livres, donc Le regard politique, qui vient de sortir, donc qui sont des entretiens avec Bénédicte Delorme-Montigny, et puis La métamorphose ou Les métamorphoses de la cité, essai sur la dynamique de l'Occident, Flammarion, 2010. Pierre Manant, merci.
Merci à vous.